En regardant les premiers bancs de la basilique ce matin, je me disais, il doit y avoir un certain nombre de publicains dans notre assemblée qui n'osent pas se mettre dans les premiers rangs. Et c'est vrai que ça arrive souvent dans nos églises que les premiers rangs restent vides, parce que souvent nous n'osons pas venir au premier rang. Et donc c'est peut-être voilà, aussi dans cet évangile aujourd'hui, assez éloquent, au-delà de cette petite anecdote, du risque que nous avons nous aussi, finalement, 2000 ans après ces scènes de l'évangile qui nous sont décrites, nous montons nous aussi au temple, dans cette basilique, dans cette église, comme les chrétiens le font le dimanche, et nous pouvons probablement nous reconnaître plus ou moins dans ce pharisien et ce publicain, et plus précisément probablement dans ce pharisien qui se compare aux autres. Et cela ne nous est-il pas arrivé, ou cela ne nous arrive-t-il pas encore, de nous comparer aux autres paroissiens? Et malheureusement, nous savons bien que c'est un piège, une tentation dans laquelle nous tombons souvent de nous comparer aux autres. Et c'est un des aspects de l'évangile, des lectures de ce dimanche, cette question de la comparaison. J'ai ri un peu en même temps en préparant cet évangile et cette homélie. Et permettez-moi de vous livrer cette petite comparaison. Je pensais à un personnage de dessin animé que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Droopy. Et peut-être avez-vous déjà vu ce dessin de Droopy. Donc Droopy, c'est un personnage bien en chair, assez content de lui-même. Et c'est vrai qu'il se compare à ses voisins et il trouve que finalement, lui, c'est quelqu'un de bien. Et il y a un des dessins de Droopy où on le représente avec son petit peu bedonnant, son t-shirt. Et sur son t-shirt, c'est marqué « C'est dur d'être humble quand on est le meilleur ». Et donc, il y a une certaine fierté voilà, qui l'habite. Voilà, il se promène un petit peu. Et puis je pensais un petit peu à moi, je me disais, parce que c'est vrai que pour les prêtres aussi c'est une question, c'est une tentation de se comparer, et je me disais c'est dur d'être humble quand on a la plus belle basilique, quand on a le meilleur organiste, quand on a la meilleure équipe d'accueil, quand on a la meilleure sacristine qui est présente tous les jours. Et finalement, c'est vrai que je pense que nous sommes tous finalement de temps en temps tentés par cette perspective de nous comparer, de nous valoriser, de nous survaloriser ou de nous déprécier, de nous sous-estimer. Finalement, en général, on est plutôt dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. Et pour les chrétiens, il y a sûrement quelque chose à trouver, une posture qui peut être vraiment pour eux une voie, qui pourrait être justement une voie qui pourrait éclairer tant et tant de nos contemporains, parce que il y a certainement pour l'être humain un besoin fondamental de trouver la juste estime de soi, sans tomber dans l'orgueil ni dans la dévalorisation, puisque ce sont les deux excès possibles. Et nous avons justement ce secret, ce trésor de nous savoir aimer du Père, chacun tel que nous sommes. Et dans la prière, c'est certainement ce que nous pouvons puiser de plus précieux, comme Jésus nous en montre l'exemple, puisque Jésus lui-même, c'est dans cette reconnaissance de son Père qu'il a puisé l'énergie pour affronter toutes les épreuves de la passion qui ont été terribles, l'abandon de ses apôtres, le rejet par son peuple, tout ça il l'a puisé parce qu'il se savait aimé de son Père, qu'il va appeler Abba sur la croix, mon Père. Et à la veille de sa mort aussi, on sait qu'il va être dans cette ultime crainte, humaine de se dire, mais est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu as abandonné ton fils? Nous pouvons vraiment mettre nos pas dans les pas de Jésus. Dans les pas aussi peut-être de ce publicain qui se reconnaît pécheur, mais qui réclame cette miséricorde de Dieu. Nous sommes à quelques jours de la Toussaint. Et c'est important peut-être de nous replacer aussi dans les pas des saints qui ont su trouver sûrement chacun à leur manière ce chemin pour trouver comment être eux-mêmes sous le regard de Dieu sans se comparer aux autres, puisque probablement que les saints sont justement ceux qui ont trouvé chacun leur manière d'être féconds dans leur vie, de trouver leur route sans se comparer aux autres, puisque chacun des saints, on le voit bien, est un peu unique en son genre. Et au début des manuscrits autobiographiques, Thérèse de Lisieux, qui a été déclarée par les papes peut-être la plus grande sainte des temps modernes, et qui dit « Moi, je vais passer mon temps, ce livre, à chanter les miséricordes du Seigneur, c'est-à-dire à dire combien c'est la miséricorde de Dieu qui a été pour moi l'objet de ce désir de raconter tout ce que Dieu a fait pour moi. » Donc, nous pouvons regarder effectivement chez les saints cette posture particulière qui faisait qu'ils avaient conscience de leur misère, de leur péché, de leurs défauts, mais ils avaient encore plus conscience de la miséricorde de Dieu, de la bienveillance de Dieu à leur égard. Et donc, nous avons sûrement, dans ces jours qui nous préparent à la Toussaint, un chemin là qui nous est tracé, de trouver cette juste attitude. Parce que nous avons besoin de cette reconnaissance. Et nous pouvons aussi contribuer les uns et les autres à nous l'apporter, cette reconnaissance. On parlait il y a quelques dimanches, je crois, de cette valorisation que nous pouvons aussi nous donner les uns aux autres. Ces remerciements, cette gratitude que nous pouvons nous exprimer les uns à l'égard des autres. Parce que c'est un besoin fondamental. Nous pouvons bien sûr la puiser dans la prière. Mais nous avons aussi besoin de la trouver dans des signes de reconnaissance que nous sommes un peu avares à donner. Nous pourrions cultiver cet art de reconnaître ce qu'il y a de bon chez les uns et chez les autres. C'est vrai, nous savons bien en famille que c'est souvent entre frères et sœurs une cause de dispute parce que les uns ou les autres ont reçu plus de cadeaux, plus de paroles valorisantes de leurs parents. Et donc, nous savons bien que c'est un sujet qui est présent dès notre enfance, finalement. Nous avons besoin de nous savoir reconnus, aimés, valorisés. Et je me disais, une paroisse, une famille, une communauté, une entreprise mûre, humainement parlant, dans les relations, c'est celle où chacun peut être reconnu pour ses talents sans que cela suscite la jalousie des autres et que les défauts que nous pouvons voir chez les uns ou les autres ne sont pas l'objet de dépréciation, mais au contraire de miséricorde. Et nous pourrions essayer de tendre dans nos communautés paroissiales, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tous nos lieux de vie, à essayer d'être les artisans de ce mode de relation qui peut être vraiment source de société, peut-être à l'échelle du monde aussi. Nous pourrions reconnaître les talents de telle ou telle culture, de tel ou tel pays, parce que chacun a une grâce propre, chaque culture a une grâce propre. Tout à l'heure, j'ai demandé à l'organiste à ce que nous chantions le Notre Père de Rimsky-Korsakov. Parce que je trouve que dans cette période de tension géopolitique, nous devons cultiver aussi l'estime des autres cultures. Je pense à tous ces génies de la culture russe qui ont donné tant de talents, culture musicale, culture iconographique, je pense à l'icône de Roublev, culture cinématographique, et donc il y a énormément de talents qui sont qui ont été ceux de la culture russe. Et je pense qu'en ce moment, il faut prendre le temps de les reconnaître. Parce qu'il y a le risque de diaboliser les uns et les autres, voilà, de déprécier. Et je pense que nous devons être vigilants pour savoir donc reconnaître les talents personnels les uns des autres et savoir aussi du coup nous accompagner dans les limites, les défauts que nous avons. Parce que je pense que l'attitude la plus juste, c'est celle justement qui sait reconnaître les talents, reconnaître aussi par des paroles parfois, par savoir le dire, et puis accompagner les misères avec miséricorde. Mais je sais que mon conjoint, mes enfants, mon curé ont des défauts. Et je peux aussi me dire comment je fais pour les accompagner avec miséricorde, avec discrétion, tout en sachant valoriser les talents et accompagner les défauts. Et nous pourrions nous dire que cet évangile du pharisien et du publicain, c'est une invitation à quelques jours de la Toussaint, à savoir trouver ces justes attitudes pour que nous puissions nous sentir aimés, reconnus, valorisés, aussi supportés, avec cette attitude particulière qui est celle du Christ, en fin de compte, parce que lui savait, peut-être d'ailleurs certainement, voilà, le plus au monde, reconnaître chacun, l'encourager à être lui-même, sans non plus ignorer ses misères. Hein, on voit les attitudes de Jésus face à la femme adultère, trouver à travers ses infirmes qu'il a guéri, va et désormais ne pêche plus. Donc il ne ferme pas non plus les yeux sur le péché, mais il trouve ses justes attitudes pour encourager chacun à accueillir sa misère, mais aussi à se savoir aimer du Père pour pouvoir avancer. Et nous pourrions demander la grâce dans nos communautés, dans nos familles, de pouvoir avancer tous dans cette direction-là, de savoir nous supporter les uns les autres, mais aussi nous encourager, nous valoriser. Ainsi soit-il.
Chers frères et sœurs, cette fête de la Toussaint, c'est un peu comme une fête de famille, puisque par le sang de Jésus, nous sommes réunis dans une grande famille, la famille des enfants de Dieu, des frères et sœurs de Jésus, et tous pécheurs, nous sommes tous sauvés. Sauvés par Jésus, et l'Église nous montre comment la vie de tant et de tant de nos frères et sœurs en humanité a été transformée par cet amour de Dieu. Un des points forts du Concile Vatican II, c'est d'avoir remis l'accent sur ce que certains saints, comme saint François de Sales, ont déjà souligné par le passé, l'appel universel à la sainteté. Devenir saint nous concerne tous, cela concerne tout le monde, hommes, femmes, enfants, ados, personnes âgées, célibataires, mariés, veufs ou veuves, PDG ou simples ouvriers, enseignants, médecins, gendarmes, mères au foyer, commerçants, artisans, chômeurs, SDF, finalement, peu importe, aux yeux de Dieu, quel que soit notre état de vie, Dieu nous a créés par amour, chacun. Nous sommes une personne unique, unique au monde, différente de toutes les autres. Et le désir de Dieu, c'est que nous fassions, chacun à notre manière, briller cette lumière de son amour dans notre vie. Cette vie unique est différente de toutes les autres, dont nous sommes chacun le responsable. Pour devenir saint, il n'est donc pas nécessaire d'être prêtre religieux ou religieuse, vous l'aurez bien compris. Et non seulement cela, mais chacun de nous doit découvrir l'appel particulier, singulier que Dieu lui adresse. Peut-être parmi nous, certains l'ont trouvé, d'autres le cherchent encore. Je pense que nous sommes tous plus ou moins entre les deux. Le Concile Vatican II utilise cette expression « chacun dans sa route ». Et rappelons-le, et rabâchons-le, j'ai envie de dire, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des choses extraordinaires pour devenir saint. Peut-être que c'est un des messages les plus importants de Thérèse de Lisieux, simple petite carmélite dans ce Carmel de Normandie, ignorée du monde, qui est devenue peut-être la plus grande sainte des temps modernes. Et rappelons aussi que la comparaison avec la vie de certains saints pourrait être source de découragement. Alors le pape François écrit dans son exhortation que je vous encourage à lire, « Gaudete et exultate », exhortation sur la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Il écrit « Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins, certes, qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour chacun de nous. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui. Et qu'il ne s'épuise pas, comme peut-être ça nous arrive, en cherchant à imiter de manière extérieure quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Le grand mystique Saint Jean de la Croix écrivait dans son Cantique spirituel, il préfère éviter des règles fixes pour tout le monde. Et il expliquait que ces vers, dans ses écrits, étaient écrits pour que chacun en tire son profit à sa manière. En effet, la vie divine se communique aux uns d'une manière et aux autres d'une autre. On pourrait dire que la vie spirituelle, la vie éternelle, la sainteté, c'est comme un grand jardin avec une multitude de fleurs, d'arbres, de faunes différentes. Et que ce jardin, un peu comme les grands jardins dans les grandes villes, vous savez, à Paris ou dans d'autres villes, il y a plusieurs entrées. Quand on va au jardin du Luxembourg, on peut rentrer par plein de portes différentes. Et vous voyez, pourtant c'est le même jardin, mais il y a plein d'entrées différentes. Donc nous pouvons y entrer dans ce jardin, dans la vie de communion avec Dieu. On peut y entrer de plein de manières différentes. Et il y a une multitude de fleurs qui ont des parfums différents, des couleurs différentes. Eh bien, chacun de nous, dans le jardin du bon Dieu, nous sommes l'une de ces petites fleurs qu'un jour il va cueillir pour former ce magnifique bouquet des saints dans la vie éternelle. Donc c'est vrai qu'il faut être prêt un jour à être cueilli par le Seigneur. Et sans avoir peur d'être une petite fleur du bon Dieu, différente des autres. Et je voudrais nous rappeler aussi ce matin le rôle que nous avons les uns à l'égard des autres. Et je voudrais que nous nous rendions compte que nous avons peut-être dans le monde qui est le nôtre, qui cultive la performance, à accueillir la fragilité, notre fragilité et celle des autres. C'est peut-être un des enjeux particuliers pour être saint aujourd'hui et aider les autres à le devenir. Parce que nous voyons bien qu'il y a dans notre société une tentation, la tentation de la toute-puissance, de la sélection eugénique, embryonnaire. Nous voyons qu'il y a des forces puissantes qui sont à l'œuvre et qui prônent un surhomme, une surfemme. Et la sainteté, ce n'est pas cela, puisque notre Seigneur, il a terminé sa vie crucifié, le corps transpercé, et c'est dans ses blessures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Donc c'est aussi dans nos blessures, dans nos fragilités, que se trouve une part du secret pour que notre vie devienne lumière. Et ça, nous avons besoin de l'apprendre. Peut-être au quotidien, à la maison, avec la fragilité des uns et des autres, on pourrait dire les défauts, ça va un peu ensemble, les blessures, tout cela, c'est important de nous rendre compte que le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Donc, parents, aimez vos enfants tels qu'ils sont, pas tels que vous voudriez qu'ils soient. Et on pourrait se le dire aussi entre conjoints, entre paroissiens, entre prêtres et laïcs, aimez vos prêtres comme ils sont, puisque aussi ils ont leur fragilité, leur talent. Et je pense qu'il y a dans l'accueil que nous pouvons nous réserver les uns aux autres un secret pour nous aider à devenir ce que nous devons être. Parce que nous avons tendance à plaquer une perfection extérieure sur les autres ou sur nos propres objectifs. Et je pense que c'est un grand handicap pour que nous puissions cheminer vers la sainteté ensemble. Donc je nous souhaite une très bonne fête aujourd'hui, puisque c'est la fête de tous les saints, donc c'est notre fête à chacun. Bonne fête à chacune et à chacun. Bonne fête à tous. Et peut-être dans l'invitation à nous accueillir les uns les autres, tels que nous sommes, dans nos fragilités. C'est peut-être un des grands témoignages que les chrétiens peuvent apporter au monde d'aujourd'hui. Amen.